la posta?
Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. L'Agence pour le développement et la promotion du projet Inga 3 à Dépi a annoncé vendredi 14 octobre dernier le choix qui devra opérer la RDC d'ici la fin de l'année 2016 entre un consortium chinois ou espagnol pour la mise en route définitive du projet Inga 3. Il s'est rappelé que la Banque mondiale avait suspendu fin juillet sa participation à ce projet. Voilà qui justifie la nouvelle démarche du gouvernement congolais pour accélérer la construction de ce barrage initié depuis une trentaine d'années maintenant. Quels seraient pour vous les préalables à prendre en compte dans le choix de ces consortiums? Rejoignez-nous au 081-890-7315 pour intervenir en direct dans ce magazine mis en onde par Sylvain Matundu. J.R. Lungembo est à la réalisation et la coordination et Piero Elamenji vous les présente sous la supervision de Martin Seboujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-7315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Piero Elamenji.
Après le retrait au mois de juillet dernier de la Banque mondiale au projet Inga 3 pour raison des désorientations du projet, une des orientations stratégiques du projet, rappelons que le gouvernement congolais avait ouvert les marchés pour des sociétés qui pourraient être recrutées, qui pourraient signer les contrats afin de pouvoir mener à bien ces projets. Rappelons que des consortiums ont été retenus, c'est le groupe des entreprises chinoises dirigées par China Three Gorges Corporation et le groupe BTP espagnol avec à sa tête l'entreprise ACS. C'est un groupe qui est presque leader mondial dans le domaine de BTP, mais aussi de barrages hydroélectriques ainsi que les groupements chinois. À la fin de l'année, le gouvernement pourra se pencher pour avoir une seule société qui pourra mener à fond et à bien les projets Inga 3. Et rappelons que la Banque mondiale s'était retirée à ce projet. Alors pour vous, quels sont les préalables à prendre en compte pour arriver à dégager un partenaire qui pourra mener à bien ces projets prévus pour le développement de l'électricité, non seulement à RDC? Rappelons qu'en 2013, une promesse a été faite par l'Afrique du Sud d'acheter plus de la moitié de la production d'électricité du futur barrage, soit 2500 mégawatts pour assurer ici une viabilité financière au projet. Alors comment arriver concrètement à choisir une société qui pourra mener à fond ces projets? C'est la question au centre de notre échange. Vous êtes nombreux à commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, comme Elie Lokwa, qui nous écrit de Bukungu dans la province de la Tchopa. Il estime que le peuple congolais a droit aujourd'hui à une énergie électrique garantie dans la Constitution. On est fatigué des promesses pour la réalisation de ce projet Inga 3, mais on peut quand même arriver aujourd'hui à se poser des questions si réellement on va avoir une société qui pourra signer le contrat et que le gouvernement congolais pourra être à mesure de respecter sa part de responsabilité dans le contrat pour pouvoir produire cette électricité tant attendue par la population. Alain, merci d'être avec nous. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
On vous écoute. Quels sont les préalables pour arriver aujourd'hui à retenir une société qui soit capable de mener ses projets jusqu'au bout?
Oui, comme l'a dit Maître Elie, nous devons savoir que l'électricité est une conditionnalité pour prétendre à l'industrialisation de notre économie. Mmh. Et aujourd'hui, nous constatons que si notre économie a des lacunes, c'est tout simplement parce que nous avons une carence en électricité. Si vous prenez toutes les provinces, nous avons des potentialités, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à apporter une valeur ajoutée conséquente pour permettre à ce que nous affranchissions notre population de la pauvreté. Et ce projet, c'est un projet qui a été salué par tout le monde. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir qui peut nous garantir l'efficacité dans l'action, mais aussi l'efficience. Parce que généralement, lorsque nous prenons la plupart de projets, la population se plaint généralement de la surfacturation. Et nous voulons avoir une entreprise qui va nous garantir d'une part l'efficacité en termes de la durabilité du projet, de la construction, mais aussi en termes de l'efficience pour ne pas payer de lourdes factures sur un travail qui ne sera pas accepté ou qui ne va pas durer. Aujourd'hui, que la Banque mondiale s'est rétractée ou s'est retirée du projet, bien que l'idéal serait que cette banque internationale puisse nous accompagner, mais ce qui est important, c'est aujourd'hui que nous devons lever les options pour avoir cette entreprise qui va prendre en charge non seulement la construction, mais aussi voir le mécanisme par lequel nous pourrons nous garantir la tenue, la pérennité du projet pour permettre à ce que nous arrivions à donner de l'énergie, à donner du champ à notre économie et permettre que notre pays puisse avancer. Il y a des opportunités qui sont aussi pour l'Afrique. La situation de nécessité ne concerne pas que la République démocratique du Congo. Nous avons un marché plus large que nous pouvons imaginer. C'est pratiquement toute l'Afrique qui est concernée par le projet. Mais ce que moi je trouve quand même de surprenant, ce qui me fait de quoi peur, c'est de voir que dans le protocole de Kyoto, il y a un mécanisme de MDP, mécanisme de développement propre, où on dit les pays qui sont porteurs de projets à réduction des émissions de gaz à effet de serre, tel que ça, c'est la NSA de la 3, en principe, devait être accompagné par la communauté internationale. Mm-hmm. Parce que si nous prenons les enjeux environnementaux et plus précisément le réchauffement climatique, notre forêt, si elle est dégradée aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement parce que nous recourons vers la forêt pour avoir le bois de chauffe et avoir l'énergie. Mais malheureusement, on ne fait pas l'accompagnement de la communauté internationale.
Mais on quand même que, s'il vous plaît, si on se rappelle bien ce qui s'est passé au mois de juillet, la Banque mondiale a estimé que le gouvernement, en créant l'agence, l'agence pour le développement et la promotion du projet Grand Yinga à Dépit, la Banque mondiale avait estimé que le fait que le président de la République ait nommé le responsable de cette structure sans tenir compte du protocole dans l'élaboration du projet, il a été estimé qu'on ne peut pas nommer quelqu'un s'il n'y a pas un concours, s'il n'y a pas l'appel d'offres. Comme ça, c'était les mesures de transparence. Et en se rendant compte que le gouvernement a pu orienter, prendre d'autres décisions sans tenir compte du partenaire qui était la Banque mondiale, et trouver que ce n'était pas possible d'aller avec le projet jusqu'au bout, parce que la présence de la Banque mondiale, c'était aussi les moyens de crédibiliser le projet lui-même pour que d'autres personnes, d'autres structures puissent y amener des capitaux. N'est-ce pas que là aussi, s'il y a un problème de responsabilité de la part du gouvernement congolais dans le respect de contrats, dans le respect des principes qui ont été établis avec les différents partenaires qui prenaient part à ces projets?
Mais moi, je crois que la Banque mondiale doit faire la part des choses entre les intérêts de la communauté internationale et les intérêts de la sous-région. Aujourd'hui, nous avons besoin d'électricité. C'est vrai que la démarche du gouvernement n'a pas satisfait les exigences voulues par la Banque mondiale. Mais comme je le disais, il y a aussi un autre aspect sur le plan environnemental. Si on laisse la République démocratique du Congo dans l'incapacité d'avoir ces barrages, eh bien, ça serait un choix contradictoire par rapport aux enjeux environnementaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous sentons qu'il y a des choix contradictoires aussi. Parce que lorsqu'on prend des engagements avec les institutions telles que la Banque mondiale, eh bien, on est tenu à respecter ces accords pour ne pas donner l'impression d'être dans une démarche anarchiste. Nous avons besoin de ces projets, non pas seulement pour nous, mais aussi pour l'Afrique et surtout pour le monde. Parce que je sais que si nous avons ce projet, eh bien, on va réduire la demande en bois de chauffe et cela va permettre à ce que notre forêt soit préservée. Mais malheureusement, si nous voyons la démarche de la Banque mondiale et si nous prenons les enjeux économiques mondiaux, eh bien, on peut se rendre compte que ce projet n'arrangera pas aussi un certain nombre de économies, si vous voulez, à ce que nous restions dans cette position de faiblesse ou dans cette position de dépendance pour que nous n'arrivions pas à mettre en valeur nos potentialités. Mmh. Le gouvernement doit fournir des efforts pour rassurer les partenaires parce que nous n'avons pas l'épargne suffisante pour financer nous-mêmes le projet. Il doit avoir le courage de se soumettre à certaines exigences. Le temps est pour nous d'avoir ce projet et d'affronter notre population de sa pauvreté.
Merci beaucoup Alain. Rappelons quand même que les deux sociétés, les deux consortiums retenus qui vont dès la fin de l'année présenter leur offre et le gouvernement pourra choisir l'un d'entre eux. Il y a les Chinois et les Espagnols. Rappelons quand même que les deux ont une forte expérience dans les domaines de l'énergie hydroélectrique comme la société chinoise que nous avons parlé tout à l'heure des China Three Gorges Corporation avec près de 450 milliards de dollars et beaucoup d'investissements en Chine en termes de développement de potentialités hydroélectriques. Plusieurs barrages construits depuis 1993 que la société a été créée. Et quant au groupe BTP espagnol, il est presque aujourd'hui les leaders européens dans les domaines avec beaucoup d'autres sociétés, d'autres filiales acquises à sa cause, que ce soit dans le développement de l'énergie hydroélectrique dans le BTP et dans la construction des grands ouvrages. Bien sûr, on pourra voir comment les deux peuvent être utile l'an qui sera retenu pourra amener, arriver vraiment à mener à bien ces projets INRA 3 et permettre à ce que le courant soit non seulement pour la RDC mais aussi pour d'autres pays africains qui l'ont souhaité, qui l'ont sollicité. Merci beaucoup Alain. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour, c'est le journaliste. Je salue tous les auditeurs de la radio Okapi. C'est une très bonne chose que nous puissions parler de l'énergie parce que c'est le tout premier facteur qui entre en jeu dans les processus de production. Sans l'énergie, on ne sait pas produire. Je me rappelle que dans les temps, lorsque la SNEL, par exemple, honorait sa facture de consommation d'électricité à la GECAMIN, lorsque la GECAMIN honorait sa facture de consommation d'électricité à la SNEL, la SNEL pouvait payer 6 fois tout son personnel, même 80% du personnel. Donc, vous comprenez déjà que c'est un élément très important. Alors, maintenant, je ne sais pas a priori comment jeter les choix ça sur les Espagnols ou bien sur les Chinois, d'autant plus que vous faites voir que tout le monde est spécialisé dans la matière. Mais je voudrais que l'on aille encore un peu plus loin, pour voir qui a fourni le plus grand nombre d'équipements en termes d'efficience et qu'on ne s'oriente pas seulement vers le moins disant. C'est ça aussi le défaut. Quand on s'oriente vers le moins disant, souvent, ceux qui sont moins chers ne sont pas forcément meilleurs. Parce que vous savez, comme l'a dit mon prédécesseur, nous devons parler en termes d'efficacité et d'efficience. Et lorsqu'on parle de l'efficacité, on voit la durée de l'exécution du projet, alors que l'efficience, c'est en termes de qualité plus. Donc, c'est plus en termes de qualité. Et comme j'ai eu à le dire dans l'une des éditions un peu passées il y a longtemps, vous savez que INGA a la capacité totale d'environ 42 000 MW. Quand bien même jusqu'à aujourd'hui, la plus grande centrale au monde se trouve en Chine avec 22 000 MW. Cela revient à dire que si nous réussissons ce travail, nous allons gagner d'abord non seulement en termes d'énergie, mais aussi en termes de la pérennisation de l'activité, parce que vous savez, la plupart des richesses que nous avons sont utilisables. Mais cette ligne-là, nous ne manquerons jamais, si les équipements sont en bon état, nous ne manquerons jamais de l'eau. Et imaginez-vous que ce nous a fait une grâce en sorte que depuis qu'il ne sont pas, jusqu'au niveau de l'INGA, nous avons des chutes. Il n'y a personne, il n'y a aucun Congolais qui a fait pour qu'il y ait des chutes, mais c'est de la création que Dieu a prévu qu'il en soit ainsi. Donc ça, c'est un bénéfice dont nous pouvons profiter pour que pendant des années, nous puissions toujours être un consort. Je me rappelle encore que dans la construction de l'INGA, il y a eu un problème au niveau de la centrale de l'INGA et de Tchala. Qui alimente la MIBA, qu'on aurait reproché les problèmes d'assemblement. Alors, moi, je préfère qu'on puisse vraiment choisir celui qui convient le mieux, en sorte que le profit soit tout à fait vraiment maximisé. Aujourd'hui, par exemple, nous parlons du parc agro-industriel de Bukangalonzo, récemment encore parlé d'un autre ici au Maniema Kipaka, mais tous ces parcs auront besoin de l'électricité. Si nous ne savons pas se produire localement, mais je crois que cette électricité pourra nous servir à bien de choses. Et surtout que l'électricité de l'INGA est déjà arrivée dans la ville de Bandundu. Donc vous comprenez que par là, nous pouvons facilement, c'est depuis 94 d'ailleurs, que le courant de l'INGA est arrivé jusque dans la ville de Bandundu. Alors, ça c'est une chose, mais je voudrais que l'État congolais ne s'arrête pas seulement là-bas.
Mm-hmm.
Parce que le transport de cette énergie jusqu'à des points un peu retirés coûtera un peu plus cher. Mais il y a d'autres centrales hydroélectriques qu'on peut quand même aussi relancer. Par exemple, ici, chez nous, au Maniema, on parle du parc de Kipaka. Mais nous avons aussi une centrale de Rutshuru ici qui pose problème. Alors, si on la tire, on les réalimente aussi. On la réalimente, je crois que ça serait une bonne chose.
Mm-hmm.
L'AMIBA, même si aujourd'hui elle a des problèmes, mais d'ici là, elle va répondre. Ce n'est pas avec cette centrale de Boa que nous allons toujours compter avec les problèmes d'ensablement et rien d'autre. Donc, je dis que c'est une bonne initiative.
C'est une bonne initiative. Et vous estimez, voilà. Et vous estimez, Valérie, comme ceux qui sont retrouvés avec nous sur la page Facebook, qu'il faut élargir le projet, il faut voir grand, parce que si on doit parler de l'émergence aujourd'hui à l'horizon 2030, on ne peut pas parler de l'émergence s'il n'y a pas l'énergie et si on ne produit pas, et s'il n'y a pas l'énergie qui puisse permettre aussi le développement des infrastructures de base. Merci beaucoup, ingénieur Valérie Faustin. Vous êtes à Calimi. Bonjour, Faustin.
Ah, bonjour, Guillaume.
On vous écoute, Faustin.
Ah, bonjour à tous les amis de la radio Katim. Nous pouvons, effectivement, je peux dire d'emblée, dans l'entrée des jeux, je peux dire que nous pouvons que saluer l'accord d'abord, de l'accord qui a été signé. Mais nous pouvons, nous avons plusieurs, la question que nous nous posons, nous avons plusieurs potentialités, y compris l'électricité. C'est ce que nous devons d'abord savoir. Il n'y a pas que l'électricité, parce que nous avons beaucoup au Congo. Dieu nous a donné des scandales géologiques, nous avons presque tout. La question que moi je me pose, est-ce que la réhabilitation de ces barrages d'Inga sera-t-il bénéfique à la population congolaise? D'abord, c'est ça la question que je me pose. Lorsque je vois, par exemple, à ce qui concerne le courant produit par Rouzizi, n'est pas bénéfique. Rouzizi, là, je suis dans la province du Sud-Kivu. Et ce courant-là, le barrage-là, et le courant produit par Rouzizi, devrait être bénéfique par la province d'abord, lui-même, la province elle-même du Sud-Kivu et la province du Nord-Kivu voisin. Mais, je te dis que, M. JR, c'est au moins 10% de la population de Bukavu et de Goma qui est servie par ces courants-là, produits chez nous-mêmes, au niveau de notre pays. Alors, maintenant, je me demande maintenant, le courant maintenant ici qui sera produit par le barrage
de Tunga,
est-ce que... Hein?
Oui, allez-y. Vous demandez, Faustin, si le courant de Inga 3 va profiter à la population. Rappelons quand même que l'Afrique du Sud s'était déjà pointée en 2013 en demandant de pouvoir relancer ce projet en estimant qu'elle pouvait acheter 2500 mégawatts de cette électricité. Mais votre souci, c'est de voir le projet Inga 3, une fois réalisé, que le courant puisse profiter à la population. On sait que nous avons un problème sérieux aujourd'hui d'accès à l'électricité dans nos pays. Faustin, ingénieur Valérie est en train de le dire tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de projets de production comme des parcs agro-industriels, mais si on n'a pas l'électricité, ça sera difficile. Pour vous, le souci, c'est de voir le projet, l'investissement, mais qui enfin profite à la population. Merci beaucoup, Faustin. Elie, vous êtes à Bokungu Ikela. Merci d'être avec nous, Elie. Bonjour et bienvenue.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole et de pouvoir intervenir à la parole aux auditeurs.
Mm-hmm.
Et je suis en quelque sorte de remercier d'abord les soucis du gouvernement parce que la Banque mondiale a déjà suspendu son accompagnement au projet en session. Mais le gouvernement a fait en sorte de pouvoir se démarcher pour rechercher les autres partenaires, pour promouvoir les acquis de l'électricité dans notre pays. Et c'est d'abord une question très importante. Dans un pays tel que le nôtre, nous avons des soucis de mettre en place l'électricité, afin que partout qu'il y ait une lumière. Mais voilà encore un problème de notre gouvernement, c'est quoi, étant un citoyen congolais, il y a beaucoup de projets. C'est tous les projets que nous avons eu auparavant, au préalable, il y avait Inga 1, Inga 2. Et aujourd'hui, on veut en quelque sorte mettre en place Inga 3, et qui, pour m'assurer les soucis du gouvernement. Il faut que le gouvernement puisse aller avec l'objectif, avec la vision pour laquelle il veut mettre en place pour pouvoir arriver à l'objectif. Ce n'est pas parce que vous voulez mettre du projet et avec des projets en question, vous ne voulez pas exécuter et réagir avec beaucoup de précision. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a un problème de manque d'industrie parce qu'il n'y a pas assez de courant. La plupart des provinces qui ont été décentralisées aujourd'hui vivent avec beaucoup de difficultés pour le développement. Lorsqu'il y avait peut-être des courants de l'électricité garantis pour toutes les provinces, on pourrait inviter, on pourrait appeler les partenaires à venir et s'investir dans notre pays, surtout dans les provinces. Mettre en place des industries de transformation de bois peut-être, l'industrie de transformation des poissons. Mais quand on met en place une industrie de transformation de poissons ou de bois, ça permettra à la population une meilleure survie. Étant donné qu'il n'y a pas assez de courant, très chers compatriotes, étant donné qu'il n'y a pas assez d'électricité, le développement ou l'émergence de notre République sera tout simplement une obscurité. Hein? Comment on peut nous avoir dans un pays une centrale hydroélectrique qui est très importante? Et puis voilà, nous, les peuples congolais, nous vivons par manque de la lumière.
Mais si on revient sur le constat, ça c'est le constat. Nous savons que pour moins de 15% aujourd'hui de la population congolaise n'a pas accès à l'électricité. Ça c'est un fait. Il faudrait arriver à améliorer cela. Mais dis-moi quand même, je relève dans votre argumentaire un point important. C'est le fait d'avoir le projet, mais aussi le fait de pouvoir mener à bien ces projets jusqu'à la réalisation, ça c'est autre chose. C'est pas la première fois, on a eu déjà des discussions autour de cette émission, mais il reste à savoir que la réalisation des projets comme Inga 3, ça demande beaucoup de moyens. C'est pourquoi le gouvernement recourt à ces appels avec ces consortiums, que ce soit chinois ou bien espagnol, voire celui qui peut accompagner le gouvernement en y mettant de capitaux. Mais votre souci, c'est un souci réel qu'on arrive aujourd'hui à améliorer notre accès à l'électricité, mais faudrait-il que les projets soient menés à bien pour qu'ils soient profitables pour la population, mais pourquoi pas aussi à d'autres pays africains qui ont sollicité. Ça peut faire entrer des capitaux pour le pays. Merci beaucoup, Elie, de nous avoir appelé de Bokungu Ikela. Maître Adrien, merci d'être avec nous. Vous êtes à Kalanga au Conseil Central. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Thierry Lamenji, bonjour à tous les amis auditeurs.
On vous écoute.
Oui, merci pour la parole Thierry. Je pense que c'est vrai, le projet sur papier, il est bon, il est merveilleux, mais ça reste à savoir si le gouvernement aura tous ces moyens-là pour matérialiser son intention. Parce que nul n'ignore qu'il y a eu des petits problèmes entre le gouvernement et ses partenaires suite à certains contrats qui n'étaient pas respectés par notre pays. Recourir maintenant peut-être à des privés, ça peut s'avérer aussi une très bonne chose, même si ici au Kasaï, beaucoup de gens n'accordent pas une attention soutenue à la réussite à ce projet-là, lorsque le Kasaï se rappelle de ce qui était appelé comme un projet de Katende, un petit projet qui a pris autant d'années sans réalisation. Et d'entrée de jeu, on nous a parlé aussi de notre projet palliatif d'abord de Mégatron, et ce que les Kanangais vivent aujourd'hui comme réalité, ce sont des pleurs et des grincements dedans, parce qu'ils ont commencé à un prix qui était d'abord de 38 000 francs, 40 000 francs, comme auparavant, et il y a de cela une semaine, Enercac a eu à sortir une mesure qui est allée au-delà de 200 000 francs congolais, ce qui fait dire aux spécialistes que la consommation du courant donc du courant solaire à Kananga
devient le courant le plus cher au monde.
Alors, maître Adrien, oui, pour revenir à ça, parce que c'est une question assez importante, rappelons quand même que les projets qu'attendaient à Boutos ont été faits dernièrement lors du voyage du chef de l'État de son séjour à Kananga. Il avait répondu qu'à son retour à Kinshasa, une délégation devait se rendre en Inde pour pouvoir mettre au point les financements de la partie congolaise afin de finaliser les travaux de Katende. Est-ce qu'aujourd'hui, les travaux se déroulent-ils sur le site de Katende aujourd'hui?
Il faut dire, Pierrot, que les travaux se déroulent à pas de tortue, jusqu'à telle enseigne que la population ne sait pas se situer. Donc, à quel niveau ces gens-là sont arrivés avec les activités. Il y a les uns qui disent que les activités se retrouvent à 65% de réalisation. Les autres disent que non, nous sommes à 55%. La bouche autorisée ne parvient pas à donner l'information.
Mais là, ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qui est quand même la communication qu'on fasse aujourd'hui en sommes-nous avec le projet KTND. Et pour revenir enfin, j'ai terminé à ce que vous avez dit tout à l'heure, le courant Mégatron, ça veut dire cette centrale hybride, comme on nous a dit dans cette émission, le panneau solaire couplé à un groupe électrogène. Vous dites que la facture des consommations domestiques pour un mois s'élève aujourd'hui à plus de 200 000 francs congolais, c'est ça?
Exactement, Pierrot, 200 000 francs, et c'est là que les Karangais ne comprennent absolument rien. Ils se disent que lorsqu'on utilisait la SNEL avec le carburant, on avait passé même 50 000 francs. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le panneau solaire, du coup, ça devient une facture à 200 000 et les gens sont en train de pleurer et la plupart des ménages demandent tout simplement qu'on puisse arrêter avec ces courants, comme ça qu'on rentre dans notre obscurité d'antan parce que personne, tout le monde se pose des questions et personne n'a une réponse concrète pour justifier une hausse. C'est comme ça que le Kananga demande même pour qu'on puisse dire la vérité à la population.
Est-ce
ce sont des panneaux qui fonctionnent ou bien ce sont donc
des la quantité pour voilà, c'est ça. Et c'est pour cela quand on voit dans ces débats qui se déroulent sur la page Facebook Maître Adrien, beaucoup de gens reviennent sur la concrétisation des différents projets. Vous l'avez dit, notre ami Elie était très inquiet tout à l'heure pour dire que ce n'est pas le premier projet. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que Inga 3 pourra aller jusqu'au fond? Faustin s'inquiétait, s'est posé des questions de savoir si jamais le projet Inga 3 a été mené, est-ce que le courant va profiter à la population avec autant de problèmes qui se posent à Kananga aujourd'hui, la consommation du courant par panneau solaire partir jusqu'à plus de 200 000 francs de facture, c'est un véritable cas, c'est un problème très très sérieux. Alors, l'inquiétude aussi sur le projet KTND, c'est de la même manière que les gens pensent qu'il faudrait à tout prix qu'on ait une société qui doit émettre des capitaux afin que le projet Inga 3 soit réalisé et qu'il réponde aux besoins de la population. J'y reste pour garder la ligne ainsi que Omar 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
J'y reste, vous êtes avec nous de Bandundouville. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Pour vous, quels sont les préalables pour qu'on arrive vraiment à avoir un consortium qui s'investisse dans le projet Inga 3 et que les projets soient matérialisés? J'y reste, bonjour et bienvenue. J'y reste, bonjour. Là, on retourne à Kinshasa en attendant qu'on puisse voir si c'est possible de joindre J'y reste. Maître Omar, merci, vous êtes avec nous.
Je suis avec vous, Pierre, et merci de bien que vous m'accordez.
On vous écoute, Maître Omar.
Merci beaucoup, très cher Pierre. comme tout le monde, je tiens à saluer le sujet que nous débattons ces jours. Je voudrais dire, comme je crois, M. Valéry, que tout le monde a toujours dit le développement moderne, tel et même le credo du gouvernement actuel, la révolution de la modernité. Cela passe par l'industrialisation. Et tous les économistes contemporains vous diront, Pierrot, l'énergie électrique est une condition non négligeable, voire une économie pour l'émergence moderne de l'État. Tout le secteur de plus sur le développement vous dira, parmi les importants aujourd'hui, le développement humain, il y a aussi l'accès au courant électrique. Moi, je vais le préalable pour que ce projet puisse réussir. Je voudrais d'abord qu'on interroge le passé, parce qu'on ne peut pas orienter le futur si on ne s'interroge pas sur les issues du passé. Si on fait un petit tour au passé, on se rend compte que c'est qu'on n'en est pas au premier projet. D'abord, c'est une revendication de la Banque mondiale. Et les dossiers où la Banque mondiale a pu, n'est-ce pas, soutenir ou motiver sa décision de retrait dans ces projets. On démontre sur le plan expert que nous avons deux barrages qui existent aujourd'hui et ces barrages peuvent alimenter toute la sous-région d'Afrique centrale. Mais en faire baisser, 20% des Congolais seulement ont accès au courant électrique. On s'est rendu compte que la capacité, la potentialité est là, mais il y avait un problème de management, un problème de leadership visionnaire, un problème de moyens qui n'était pas mobilisé. Deuxième chose, on a eu beaucoup de projets. On a eu un projet récemment, je crois que vous l'avez même dit dans votre émission, les contrats entre la CNEL et une fondation canadienne, je crois, pour améliorer toujours la fourniture du courant électrique.
Oui, c'était le contrat entre... Omar, c'était le contrat entre la firme Manitoba Hydro, la firme canadienne Manitoba Hydro. C'était un contrat de performance technique pour permettre à la CNEL d'améliorer la qualité de ses services et prestations.
Merci, Pierrot, pour cette remise au point historique. Donc, ce projet n'a rien apporté. Ce projet a même entraîné des licenciements abusifs pour mettre la place aux étrangers, mais nous n'avons rien bénéficié. Et on se pose une seule question en tant que Congolais. Est-ce que le présent projet sera abouti pour le bonheur des Congolais? Le courant électrique n'est pas une faveur qu'on accorde aux Congolais, c'est un droit reconnu dans un État moderne. Alors, moi, je pense que le présent projet est une bonne chose parce qu'il vise à améliorer la fourniture du courant électrique. C'est une obligation pour l'État et un devoir ou un droit pour les Congolais. Mais j'ai des inquiétudes, Pierrot. Premièrement, si vous lisez bien ces différents projets dans leurs propositions, ça va entraîner vraiment une privatisation ou une libéralisation. Parce que lorsque le privé vient pour intervenir dans le domaine public, ils ne viennent pas pour vous jeter l'argent. Ils doivent gagner en retour. Et lorsqu'on va avoir une libéralisation ou une privatisation, il y aura maintenant des opérations privées qui vont intervenir. Et lorsqu'ils interviennent, il faudra aussi penser au coût de la facture. Déjà avec la CNEL qui est une entreprise publique, et qu'on n'arrive pas à payer la CNEL facilement, ils n'ont pas accès au courant. Pensez-vous que même si on rend les services clairs, les gens seront en mesure de payer la facture hausse? C'est ma première inquiétude. Mais c'est une inquiétude. On peut bien mettre en place des projets, comme on a parlé de barrage Inga 1, barrage Inga 2. Est-ce qu'il y aurait un management responsable pour les concrétiser? Nous avons toujours eu des projets que nous avons explorés. On a eu des projets avec la firme canadienne, mais où en sommes-nous? Alors, les préalables, pour moi, passeraient d'abord par améliorer les conditions de vie des Congolais. Une fois ils sont bien en vie sur le plan financier, ils peuvent faire face aux impératifs de la modernité. Parce que lorsque l'opérateur privé arrive, il va mettre des prix. On a voulu essayer avec les quelques pays. Où en sommes-nous aujourd'hui? Beaucoup de Congolais ont pleuré. Le courant est un aspect technique qui exige beaucoup de moyens. Et aussi longtemps que ceux qui doivent être bénéficiaires de ce courant électrique n'ont pas des moyens pour le payer, on pourra faire des projets à votre face. Deuxième chose. Lorsqu'on initie des projets, il faut les concrétiser. Faire un projet ne pense que s'il est matérialisé. Mais est-ce qu'avons-nous des gens capables pour les matérialiser? On peut aussi avoir des gens capables si on fait des ingénieries en électricité. Mais est-ce qu'on leur accorde des moyens pour travailler? Là déjà, tu l'as dit, ils ont des projets avec la Fondation Mont Ibrahim et quelques encore. Mais on ne sait pas vous donner des moyens. Aujourd'hui, la CNEL a beaucoup d'arriérés de paiement. Il y a des projets qui sont pas... Il y a des câbles vieux de 1960. On peut avoir des projets sur papier, mais est-ce qu'on a une volonté politique?
Mais parce que vous avez évoqué la volonté politique, rappelons quand même Omar, que quand la Banque mondiale s'est retirée, c'est qu'elle estimait que le gouvernement ne prenait pas des décisions qui restaient dans l'orientation originale du projet, et que maintenant le gouvernement est seul entré à la recherche des partenaires. Il y en a deux qui sont retenus. À la fin de l'année, on pourra connaître quelle sera la firme retenue en définitive pour faire les travaux. Mais revenons au problème de vision, de leadership. Vous avez estimé que cela est très important, parce que c'est pas la première fois qu'on puisse initier des projets, mais s'il y a l'absence de vision et de leadership, ça sera difficile. Mais le pouvoir de consommation consommation de cette électricité. Beaucoup de gens, vous vous rappellerez qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes, même quand nous avons parlé de cette émission il y a 4 mois passés. Beaucoup de gens estimaient que le pouvoir d'achat du Congolais risque de ne pas lui permettre d'avoir accès à l'électricité. Prenons l'exemple de ce qui se passe à Kananga aujourd'hui, où la population estime qu'il serait mieux qu'il reste avec la SNEL, parce que le projet avec la SNEL, quand le courant était fourni avec le gasoil, c'était, les factures étaient à 40 000 francs par mois, et que la centrale solaire, les factures vont jusqu'à 180 000 francs, 170 000, voire même 200 000 francs pour une partie des consommations, et c'est difficile. Et vous, vous les mettez dans cette logique où si le pouvoir d'achat n'est pas amélioré, le courant ne pourra pas facilement profiter à la population au mal.
Oui, il y a trois problèmes qui se posent. Le problème du pouvoir d'achat, le problème du management responsable et le problème de l'exercice visionnaire. Je commence par le pouvoir d'achat. Si vous lisez bien l'intégralité de ce projet qu'on veut signer aujourd'hui, il implique une opération privée à grande envergure. Ce qui veut dire que lorsqu'on signe, on va libéraliser ce secteur pour les opérateurs qui vont intervenir. Les Congolais aujourd'hui, les Congolais moins, ne sont encore à mesure de payer ça sur eux. Deuxième chose, il y a un problème de leadership. Nous l'avons dit, le projet du gouvernement a fait que la révolution de la modernité. Or, dans une modernité, il y a des priorités de l'accessoire. Entre les mains de l'intelligence qui a été construite et les courants électriques, ce qui est important. Les services publics ne sont pas des faveurs qu'on accorde aux Congolais, ce sont des droits qui leur sont reconnus. Ils vont plus déjà d'abord, dans un premier temps, faire un bilan de ce qui doit être fait. Qu'est-ce qui est prioritaire pour les Congolais maintenant et qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on ferait être utile.
Merci.
On a parlé d'un ministère de l'Industrie. Jusqu'au bout, ce ministère peine, pourquoi bureau ? Parce qu'il n'y a pas de stratégie appropriée. Il peut y avoir du plan théorique, mais on n'a pas assez de volonté politique. On ne manque pas des hommes intelligents, bureau. On ne manque pas des experts, on ne manque pas des contrats. Un minimum de volonté politique suffit pour qu'on ait au moins 50% pour un
électrique. Merci. Merci beaucoup, Maître Omar de Kinshasa, pour toutes ces précisions. Au-delà du fait qu'on doit initier des projets, il faudrait accompagner la volonté politique, les capacités managériales, les leadership, la vision, tout cela, accompagné aussi de l'amélioration du pouvoir d'achat de la population, ça pourra aider le projet à être mené au bout et surtout que les projets profitent à la population. Merci beaucoup Bintou, merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'EquipeC, je crois bien depuis la semaine passée que vous avez été éprouvé, c'est la première fois que vous intervenez dans notre magazine. Nous en profitons d'ailleurs pour vous présenter nos condoléances pour le deuil que vous avez eu. Merci d'être avec nous, Bintou, sur les antennes. Bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup, Thierry. Merci à tous les visiteurs. Merci à toutes les familles qui nous ont consolés pendant cette période, cette dure période.
Merci.
Bon, pour revenir au sujet du jour, pour parler de préalables qui concernent le projet de Inga 3D, nous en avions déjà parlé il y a de cela 4 mois, vous venez de rappeler.
Exact.
Bon, il y a plusieurs préalables, parmi lesquels moi je dois retenir le premier, c'est l'environnement stable. Étant donné que les grands projets qui demandent beaucoup de moyens, beaucoup de gens ne peuvent pas investir, vraiment un investisseur sérieux ne peut pas mettre son argent dans un pays instable ou dans un environnement instable. C'est pourquoi le gouvernement cherche souvent des partenaires comme des Chinois qui ne posent aucune condition de stabilité, ni de démocratie, ni de quoi existent les Occidentaux qui ont trop de conditions sur le plan démocratique et sur le plan stabilité. Alors, je pense que ce genre de partenaires sont partiellement bons, mais ça ne profitera pas tellement à la République, puisqu'ils gagnent souvent beaucoup. Rappelez-vous des contrats chinois sur la réalisation de 5 chantiers. La RDC avait gagné combien dans ces contrats-là, et qu'est-ce que nous en avons profité? Nous avions appris que les contrats-là n'étaient pas allés au bout. Pourquoi? Puisque la RDC avait trouvé bon d'aller prendre les Chinois, puisque les Occidentaux posaient trop de conditions sur le plan démocratique et de la stabilité du pays. Je pense que c'est une condition qu'il faut satisfaire. Deuxième condition, il faut revoir le préalable de la Banque mondiale pour réintégrer la Banque mondiale afin de disposer de son expertise. Vous savez que la RDC ne dispose pas de l'expertise nécessaire dans cette matière. Ce sont les experts de la Banque mondiale qui étaient à la base de ce projet-là et qui avaient mis à la disposition de la RDC les moyens et une certaine expertise. Le fait que la Banque mondiale se soit retirée, nous avions dit la fois dernière que c'était un signe annonciateur de la fin du règne, puisque généralement les grandes puissances, les occidentaux travaillent en communion avec leur Banque mondiale, les FMI et le pouvoir sur le plan international. Mm-hmm. Lorsqu'on se trouve déjà en désunion avec ces pouvoirs-là, ça crée des problèmes. Il faut revoir, satisfaire à quelques conditions de la Banque mondiale afin d'associer les nouveaux partenaires pour qu'il ne puisse pas y avoir des contestations dans les jours à venir. Troisième préalable, le projet d'Inga 3, je pense qu'il ne profitera pas à l'Afrique et aux Congolais. C'est un projet qui va profiter principalement à l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui en sont les principales demandeurs et qui cherchent à trouver absolument le courant à partir de la RDC. Puisque ce que nous disposons, Inga 1, Inga 2 ne nous profite pas. Regardez là où nous sommes, à Kinshasa, tout comme au Congo central. Et même ceux-là qui sont à quelques mètres de Inga, des fois ils passent de nuit sans courant. Et pendant que le même courant-là, ça profite plutôt des industries qui sont implantées à Lubumbashi dans les Katanga. C'est ça l'objectif principal pour lequel Inga a été créé. Et même les Katanga orientales, les Katanga occidentales par lesquels passe le courant d'Inga. Et n'en bénéficie plus.
Oui.
Même si on fait Inga 3, je pense que ça ne sera pas chez différents de Inga 1 et Inga 2.
Mm-hmm.
Et pour finir, je voudrais juste vous dire qu'il y a une petite anecdote que j'avais lue dans le journal Potentiel de 2005. Il y avait un groupe de négociateurs européens occidentaux qui étaient allés pour négocier un marché au niveau du Ghana. Et quand ils allaient, les experts africains du Ghana qui de l'époque pour négocier les marchés, au lieu que l'État ghanéen profite, par exemple, de 20 ou 30 ou 40%, le négociateur a proposé seulement au groupe des experts là qui étaient là, de lui donner leur compte, de donner le compte, chacun des experts donne son compte, et le négociateur pouvait verser quelque chose dans leur compte, et on a sacrifié les intérêts du Ghana, et c'est de la même manière que nous nous retrouvons à la République aussi du Congo, on sacrifie souvent les intérêts de la République. Par les négociateurs désignés par le pouvoir
public, oui.
Pour aller au profit personnel. Donc, ce genre d'histoire nous amène souvent à des contrats léonés et après on commence à regretter et nous sommes les pays traduits devant la justice et ainsi de suite.
Mmh. Merci beaucoup, Bintou. Vous avez élevé trois éléments. D'abord, le problème de l'expérience avec les contrats chinois. Rappelons quand même que nous avions eu à faire un débat pour l'évaluation de ces contrats. Il s'agissait, bien sûr, d'accorder les minerais, l'exploitation minière à ces regroupements d'entreprises chinoises qui devaient nous fournir des infrastructures. À un certain moment, il faudrait qu'on se pose des questions. Les minerais qui ont été exploités par ces entreprises s'élèvent à combien d'argent? Ça représente quoi? Et les infrastructures qui ont été construites par les entreprises chinoises aussi représentent quoi? Comme ça, on pourra avoir un équilibre dans ces marchés. Et vous avez peur que par l'expérience du passé, qu'on arrive aussi à la même histoire, à la même chose avec Inga 3, mais vous auriez souhaité voir la Banque mondiale réintégrer les projets pour lui donner la crédibilité, parce que la question de l'instabilité politique aujourd'hui peut faire que des investisseurs puissent hésiter afin de venir dans ces projets. Et enfin, vous, comme Inga 1, Inga 2, qui est passé, qui traverse l'ensemble du pays, qui est beaucoup de provinces ne profitent pas de ces courants, pour vous, c'est plus les demandeurs extérieurs, en l'occurrence l'Afrique du Sud et les Nigériens, qui pourront profiter de cette électricité pour vous. Vous pensez que ça ne pourra pas vraiment bénéficier à la population? Merci beaucoup, Bintou, de nous avoir appelé de Kinshasa. Ingénieur Bathieu, vous êtes à Kisangani. Chérubin Chamala nous a écrit de Kananga. Avant de choisir celui qui pourra gagner le marché final, il faudrait d'abord qu'on puisse faire l'étude de la rentabilité sur terrain. Mais j'ai peur qu'on puisse se confier cela aux entreprises chinoises, parce que nous avons eu le contrat chinois et nous n'avons jamais eu clairement l'explication autour des résultats du travail qui a été fait et par ces entreprises dans les cadres de 5 chantiers. Eric Kengen, qui nous écrit des Lubumbashi, explique si notre pays, par les biais des dirigeants politiques, ne cesse de prôner l'état des droits et la souveraineté, sachant que le 20e siècle encore, nous discutons des sécurités primaires accessibles à tous. Mais quel retard, si on doit discuter aujourd'hui du courant, on considère comme si cela était un besoin secondaire. Alors pour lui, il pense qu'il faudrait qu'on puisse et faire une analyse claire pour éviter que la population ne puisse, dans les choix de ces entreprises, subir encore et encore les décisions des hommes politiques. Ingénieur Bastien, merci d'être avec nous de Kisangani. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour Radio Capi, je salue tous les auditeurs qui nous suivent dans le monde. Je voulais juste intervenir par rapport au sujet. Monsieur le journaliste, vous savez, c'est bon, comme le gouvernement vient d'identifier quand même des firmes qui se prêtent à être venir intervenir dans ce projet. Mais il faut savoir que nous, d'abord Congolais, nous devons être d'abord sérieux à respecter nos engagements. Parce qu'on n'a plus la confiance même avec les autorités et les personnels politiques, parce qu'ils vont faire encore d'autres engagements. Est-ce qu'ils vont les tenir? C'est ça aussi le problème. Nous espérons que nous, Congolais, nous devons d'abord faire tout pour respecter notre engagement. Et c'est à ce moment-là que d'autres gens peuvent encore nous respecter. Aujourd'hui, vous dites qu'on va prendre les deux firmes-là qui vont venir. Est-ce que, même s'ils faisaient des engagements, le gouvernement va respecter? Déjà, ils ont craqué avec la Banque mondiale, qui est les grands financiers des projets chinois, etc. Et les deux firmes-là sont des entreprises commerciales et ils viennent ici pour leurs intérêts. Alors, nous espérons que ce n'est pas vraiment facile pour que les gouvernements puissent vraiment étudier ces dossiers et puissent aussi être sérieux, parce que pour avoir des hommes sérieux à travailler, vous-même d'abord vous devriez être sérieux. Et là maintenant, vous pouvez avoir aussi des gens qui peuvent vous assister. Sinon, si nous-mêmes ne sommes pas sérieux, c'est difficile d'avoir des partenaires qui peuvent nous appuyer, et c'est en défaveur de la population congolaise. Vraiment, nous demandons à ce que le gouvernement soit d'abord sérieux, qu'il respecte leurs engagements, alors il y aura des partenaires qui pourraient venir assister les pauvres peuples congolais.
Merci beaucoup, ingénieur Bastien. Vous avez rejoint d'ailleurs Émile Bonga, qui nous a écrit au Bukavu, qui est avec nous sur la page Facebook, qui estime qu'il doit y avoir vraiment une question de transparence. Si la Banque mondiale a pu se retirer il y a quelques mois de ces projets, c'est parce qu'on estimait que les procédures et les prises de décision n'étaient plus basées sur la transparence. Mais est-ce que c'est avec le Chinois ou les Espagnols qu'on pourra revenir au cas de la transparence, qui doit être vraiment au centre de toutes choses? Augustin Senga, lui, estime, il est à Kindu, le fait de recourir derrière les Chinois, c'est que quelque part on se rend compte qu'on ne veut pas travailler avec ceux-là qui peuvent exiger la transparence et les sérieux dans le respect des engagements. Rudy Tabalo, qui nous a écrit des Lubumbashi, quant à moi, je conseillerais à notre gouvernement d'opérer les choix de la Chine, donc les consortiums chinois, pour les raisons suivantes. La réalisation de grands projets d'infrastructures, Palais des Martyrs, Palais du Peuple, les routes et autres, financement et détention des plus grands barrages hydroélectriques au monde, qui a une puissance de 22 500 MW, et enfin, l'octroi des prêts en RDC. La Chine a déjà prêté à la RDC dans le passé de l'argent sans intérêt. Je préfère que ces projets soient conclus entre les deux États et non entre la RDC, la Banque mondiale, que notre gouvernement ne soit pas distrait, parce que la concrétisation de ces barrages offrira à la RDC le plus grand 39 000 mégawatts. Voilà le point de vue de Rudy qui est à Lubumbashi. Marcel, Henri, vous êtes à Mahagi. Henri, merci d'être avec nous. Vous êtes à Mahagi. Bonjour, Henri.
Bonjour.
On vous écoute, Henri. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on arrive concrètement à choisir une société qui réponde aux vrais besoins
et résoudre cette question? Un vrai partenaire et de respecter l'engagement qu'ils ont pris avec ces gens, et puis après tout, qu'ils puissent avoir une bonne volonté pour continuer à faire ces projets. Je crois que les Congolais ont besoin de ça.
Merci beaucoup, Henri. Les Congolais ont besoin du courant. Si le gouvernement arrive à prendre des engagements avec une société et le respecter, ça va être très important. Merci d'être avec nous d'Écologie. Marcel, bonjour. Marcel, vous êtes avec nous. Bonjour. Il y a des soucis des lignes avec Marcel qui nous appelle d'Écologie. Nous restons dans l'ancien Katanga, cette fois-ci à Kalemi, à Tanganyika. Célestin, vous êtes avec nous de Kalemi. Bonjour Célestin.
Très bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio. C'est mon ami Célestin depuis la ville de Kalemi. Ok, je voudrais seulement continuer avec la petite observation, parce que j'ai attendu ceux qui nous ont précédés dans les antennes qui disaient qu'on doit soit plus accusé la semaine, soit bon. Moi, je ne suis pas de cet avis, parce que je crains que si on privatise aussi l'électricité, on risque de tomber dans les chaos que nous observons dans l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, il y a les écoles maternelles qui paient sur l'université. Les écoles à Kinshasa où on paye 300-400 dollars par mois. Et si on privatise aussi l'énergie comme l'électricité, on risque d'avoir aussi ces multinationaux qui viendront avec leur somme, ils vont injecter là-bas et ils vont peut-être aller au-delà des structures que nous observons à la semaine. Mais, toutefois, la semaine, c'est notre société nationale. Moi, je demande alors si nos politiciens, lorsqu'ils voyagent ailleurs, ils voient quels genres de travaux qui sont exécutés ailleurs et quels services ces travaux de niveau national sont, font les travaux à leur population. Par exemple, vous allez ici seulement à Burundi ou au Rwanda où les gens là, ils ont la culture de payer les factures. Maintenant, le gouvernement a l'obligation de disposer d'énergie 24 heures sur 24. Mais ici chez nous, le délestage, ça désire une monnaie courante. Donc, vous pouvez vous réveiller et le matin, vous n'êtes pas sûr que le courant va arriver jusqu'à midi. Ici à Kalemie, c'est aujourd'hui qu'on vient d'avoir l'énergie après plus de 3 mois de délestage. Mais c'est très étonnant. Les hommes qui se sont fâchés de maison à maison pour recouvrir. Moi, je vous demande, on recouvre quoi?
Mais là, c'est la 3 mois sans courant, ce n'est plus vraiment les délestages. Durant quand même que là, c'était l'absence totale de l'électricité. Et dommage pour vous que les agents de la SNEL passent réclamer qu'on paye les factures alors que le courant n'a pas été fourni. C'est là arrivé plusieurs fois. Mais pour revenir à votre argumentaire tout à l'heure, vous inquiétez comme Maître Omar de Kinshasa qui estimait que quand on va investir beaucoup de capitaux des privés dans ces projets, il a peur que l'accès à l'électricité ne puisse coûter cher. On voit ce qui se passe à Kananga aujourd'hui. Mais rappelons quand même que le secteur a été libéralisé, mais la peur pour vous, c'est de voir des sociétés privées qui vont mettre des capitaux dans le projet Inga 3. Comment ces capitaux pourront-ils être récupérés? Et vous avez peur que cela ne puisse influer sur la facturation de l'électricité avec tout ce que nous avons déjà comme problème. Maître Omar le disait tout à l'heure, et le pouvoir d'achat de la population et que les projets ne puissent pas le profiter. Merci beaucoup, Célestin. Nous avons beaucoup de commentaires sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. René Gloire, tu papa, lui estime qu'il serait mieux que le gouvernement puisse privilégier cette fois-ci et la firme espagnole pour pouvoir comment on peut s'engager avec des Européens. On a déjà travaillé plusieurs fois dans des projets avec des entreprises chinoises. Cette fois-ci, on pourrait aussi chercher l'expertise européenne. Nous avons Trésor Calumé qui nous a écrit depuis les Kassai et lui s'inquiète encore sur le fait que la Banque mondiale se soit retirée du projet en estimant que si jamais la raison pour laquelle la Banque mondiale s'est retirée du projet n'a pas changé, quel que soit l'autre qui pourra entrer dans le projet, qu'il soit chinois ou européen ou espagnol, dès que la question de la transparence n'est pas réglée, cela risque encore de poser des problèmes entre le gouvernement et d'autres partenaires dans l'avenir. Frédéric, qui nous a écrit des Bukavu, il dit ceci, alors moi je crois que la RDC n'a pas pu bien gérer le premier montant du financement libéré par la Banque mondiale, mais si déjà au début la Banque mondiale s'est retirée parce qu'il n'y avait pas de transparence ni une bonne orientation du projet, je ne pense pas que cela pourra apporter les changements et la réussite du projet avec d'autres partenaires. Et c'est pourquoi il rejoint notre ami ingénieur Bassier qui a insisté sur le caractère sérieux qu'on devrait utiliser dans ces différents engagements pris entre le gouvernement et les différents partenaires pour ce projet Inga 3, 081-890-7315 pour intervenir en direct. Mais les débats se poursuivent sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capé vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapé.net.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet ta@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Je crois bien que c'est Sébastien qui nous a rejoint et qui nous appelle de la province de l'Ituri. Et Sébastien, vous êtes avec nous. Sébastien, vous êtes avec nous.
Oui, c'est M. Ramazani, hein, depuis la province de l'Ituri.
Ah oui, c'est Ramazani, vous êtes dans la province de l'Ituri. Ah, vous avez suivi les uns et les autres autour de la réussite de ce projet INGA 3. Et quel est votre point de vue?
Bon, il y a certains petits terrains, ça va avec la société chinoise, j'ai des très secrets. Pourquoi? Vous savez, ils ont pris le marché du boulevard de Trapégien. Ils ont asphalté les routes, mais quelques temps après, il y a eu des labrements très avancés. Il ne serait pas possible qu'on puisse travailler encore avec la société chinoise, ou du moins les Espagnols peut-être. Les gens défendent du tout simplement qu'ils ont construit les stades. C'était à quelle année? Mais aujourd'hui, ils cherchent les intérêts. On ne peut pas travailler avec les Chinois, il faut qu'ils soient tout simplement que ils travaillent très bien. Ils sont moins chers. Mais en voyant la qualité de leur travail, ça ne profite pas à la population. C'est un peu ça ma profitation.
Mais alors, à Mazali, comme je le disais tout à l'heure, quand il s'est mieux, alors que ceux qui gèrent les projets INGA 3 se rendent en Chine, où cette société a quand même beaucoup d'ouvrages. Quand je regarde depuis 1993, hein, ils ont construit assez de barrages hydroélectriques et qui ont produit autant de mégawatts. Alors, oui, il serait peut-être mieux que les experts congolais s'y rendent pour se rendre compte de la qualité des ouvrages déjà réalisés, et comme ça on pourra porter les choix pour ne pas peut-être comparer ceux qui travaillent dans l'hydroélectricité et ceux qui travaillent sur le projet route Ramazani.
Mais en tout cas, ils peuvent travailler, c'est normal, mais la qualité maintenant, la qualité, la dureté de cette histoire-là. Parce que si nous voyons le boulevard du Trantigé, je vous ai dit, c'est pratiquement difficile. Comment on peut asphalter les routes, et 6 mois après, ça devient
un problème.
Une qualité de délabrement très très avancée.
Merci.
C'est bien différent de ce qu'ils ont construit depuis longtemps à l'époque mobutiste. Là, ils avaient une autre idée par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui.
Actuellement. Merci beaucoup, Sébastien. Mais je crois bien que ceux qui sont chargés de pouvoir étudier la soumission pourront décider d'ici la fin de l'année sur les constructions qui sera retenues pour la construction du projet INGA 3. Merci, vous avez été nombreux à commenter ces sujets et les débats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est poursuivi sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. On se retrouve demain à 11h30 heure de Kinshasa pour un autre numéro de Paroles aux Auditeurs. Merci à toute l'équipe des productions. Sylvain Matundou qui était à la mise en onde, et Gérard Lungembo était à la réalisation et à la coordination. Pierrot et la Mégie vous a présenté ces magazines sous la supervision de Martin Seboujangwe. On retrouve Paroles aux Auditeurs sur www.radiocapi.net. Merci. Au revoir.